Du coup, je vais commencer par présenter la Ligue de l'Enseignement et ça me permettra de présenter mes fonctions dans la foulée. Donc du coup, effectivement, 1866, donc aujourd'hui une association qui a 152 ans quand même, donc plus ancienne que Staline. C'est une association qui est présente dans tous les départements français, voilà, avec une organisation nationale, et peut-être ce que je peux faire, c'est plus présenter en fait la Ligue de l'Enseignement en Indre-et-Loire, qui est la fédération pour laquelle on travaille. La Ligue de l'Enseignement, c'est une association d'éducation populaire. Ça, c'est une chose importante, c'est-à-dire qu'à travers tout ce qu'on va pouvoir développer, on est dans ce principe d'éducation populaire, c'est-à-dire l'éducation pour tous et par tous. Et c'est pour ça qu'on maille un large territoire et beaucoup de champs, en fait, dans nos pratiques. Ça va aller du secteur culturel, avec les spectacles pour le jeune public, la quinzaine du livre jeunesse aussi, qui est un événement important sur Tours, mais aussi des programmations culturelles en maison d'arrêt, par exemple, mais on est aussi présent sur l'engagement de la jeunesse à travers le service civique, les juniors associations, le BAFA aussi, voilà, qui sont des moyens d'engagement de la jeunesse. On travaille autour de la vie associative, on fédère pas loin de 400 associations autour de services proposés, et puis également aussi de la mise en réseau.
Sur toute la associative. France, là.
Alors non, sur le département.
Sur le département.
Sur le département. D'accord. Sur toute la France, c'est 16 000, je crois, quelque chose comme ça. Je dis peut-être des bêtises. Voilà, on travaille aussi beaucoup autour du numérique et rendre accessible le numérique et les pratiques numériques et les techniques du numérique aussi, tout ce qui va être Fab Lab, imprimante 3D, un large public. Donc voilà, et puis effectivement aussi de la formation professionnelle d'animateur et de directeur d'accueil de loisirs de séjour. J'espère que j'oublie rien.
On y reviendra d'ailleurs sur le BAFA en deuxième partie d'émission. À toi Mathilde, on a dit qu'on se tutoyait.
Donc moi je travaille à la Ligue de l'Enseignement depuis un peu plus d'un an. Je suis référente service civique pour la plus grande partie de mon temps. Donc j'accompagne les volontaires en service civique dans leur mission et surtout dans leur projet d'avenir. Bon, en gros, qu'est-ce qu'ils font après s'être engagés dans une association? Et j'ai une partie de mon temps aussi sur effectivement la coordination des équipes pédagogiques de formation BAFA. Donc j'accompagne les formateurs à construire les formations et à les mettre en place avec les stagiaires pendant les périodes de stage.
Alors tu l'as évoqué tout à l'heure Julien, en tout cas tu as défini ce qu'était la Ligue d'Enseignement d'Indre-et-Loire. En fouillant sur le site, j'ai vu cette définition très précise d'ailleurs, la fédération donc département d'Indre-et-Loire anime la vie locale, développe la solidarité et contribue à la formation de citoyens libres. Est-ce qu'on peut revenir sur ce terme, en quoi finalement la Ligue d'Enseignement forme des citoyens libres?
Effectivement, ouais, une des vocations et ce pourquoi s'est créée la Ligue de l'Enseignement, c'est ça, c'est la fabrique du citoyen. Voilà, c'est accompagner les personnes à devenir citoyens libres. Donc citoyen par citoyen libre, on entend en fait le fait de pouvoir faire des choix, d'agir sur la vie de sa cité, c'est-à-dire l'endroit où l'on vit. Et pour ça, bah, ça demande d'avoir des lieux où on peut le faire, d'avoir les moyens de le faire et surtout de le faire à plusieurs. On n'est que citoyen quand on peut agir en groupe. Si on est tout seul, isolé, ça marche pas. Donc vraiment, l'idée de la Ligue de l'Enseignement, c'est de rassembler les personnes autour justement d'un projet citoyen.
On va faire encore un petit peu d'histoire. Donc 1866, c'est quelque chose qui est vieux, on peut le dire. Pourquoi ça a été créé à ce moment-là? Est-ce qu'on peut donner une piste de réponse? Qui est le pro de l'histoire?
Je sais pas pro, mais à la base, la Ligue de l'Enseignement a été créée par un vieux monsieur maintenant, Jean Massé. Voilà, donc l'idée à la base, c'était voilà, rassembler des personnes pour qu'elles puissent porter des projets en commun. Et puis il y avait l'idée aussi, ça s'est expérimenté au début en Belgique, de créer des bibliothèques en milieu rural avec un objectif tout simple, c'était démocratiser la lecture et le fait de savoir lire pour que les gens, dans un premier temps, puissent lire leur bulletin de vote et voter consciemment, en fait.
Ok, donc ça, c'est pour l'histoire brève, j'imagine.
Brève, parce que c'est beaucoup plus long et compliqué que ça.
152 ans d'histoire. Alors concrètement, est-ce qu'on peut parler maintenant des actions que la Ligue d'Enseignement met en place, autre que les formations au BAFA sur lesquelles on reviendra plus tard? Concrètement, comment ça se passe? Comment vous développez tout ça?
Peut-être Mathilde, tu peux parler du service civique, c'est quelque chose d'assez emblématique.
Oui, effectivement, on a une grosse partie de nos actions sur le dispositif service civique. Donc déjà pour parler de ce dispositif, c'est un dispositif d'engagement de la jeunesse pour permettre aux jeunes entre 16 et 25 ans de donner de leur temps, de s'engager pour une mission d'intérêt général au sein notamment du milieu associatif et depuis quelques années au sein aussi d'institutions publiques telles que l'Éducation nationale, la CAF, Pôle emploi, les hôpitaux. Ce dispositif, service civique, il est important pour la Ligue parce que c'est un dispositif qui permet de prendre conscience de sa citoyenneté, de comprendre aussi comment fonctionne la cité, de pouvoir agir au sein même de cette cité. C'est pour ça aussi qu'on s'est saisi du dispositif service civique à la Ligue. Donc c'est un de nos moyens aussi de formation des citoyens libres et conscients de leur citoyenneté.
Vous avez combien de services civiques au sein de la Ligue ?
Alors, cette année, au sein de la Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire, on est à 87 volontaires accompagnés sur l'année.
Ah oui, d'accord. OK.
Voilà. Mais parce qu'on a un fonctionnement particulier, c'est-à-dire que nous, on porte l'agrément, donc la responsabilité des contrats, mais tous les volontaires ne sont pas à la Ligue de l'enseignement. Ils sont mis à disposition dans d'autres associations, des associations affiliées. Donc, on va avoir des volontaires au centre social Giraudot-Maris-Bastier, à l'association Courteline, dans des clubs de sport, dans des associations culturelles, des compagnies de théâtre. Donc, ce qui permet on a à peu près 60 associations affiliées qui accueillent des volontaires en service civique.
Oui, avec à chaque fois des missions bien différentes en fonction de la structure et l'association d'accueil, j'imagine, pour les services civiques en tout cas.
Oui, tout à fait. Chaque volontaire a une mission bien particulière qui est coécrite par le bureau de l'association et une de mes collègues qui travaille sur le projet associatif, le projet d'accueil du volontaire et ensuite l'écriture de la mission. Il y a 9 thèmes qui sont référencés par l'agence du service civique. Nous, on est beaucoup sur loisirs, culture, éducation pour tous. C'est les 2 gros items très forts de la Ligue de l'enseignement Indre-et-Loire développée.
Alors, une action qui a été faite en novembre dernier à Saint-Pierre-des-Corps, je crois que Julien, tu y étais, elle s'appelle Culture et éducation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette journée et de cette action-là ?
Oui, en fait, cette action, elle se situait dans un cadre plus large qui était les 50 ans du centre culturel de la ville de Saint-Pierre-des-Corps. Dans le cadre de ces 50 ans, on a mis en place un partenariat avec le pôle éducation de la ville, avec lequel on travaille déjà sur d'autres actions. L'idée étant de travailler justement sur ce lien entre culture et éducation et de proposer une soirée de pratique et de réflexion. De pratique parce qu'il y avait plusieurs petits ateliers proposés, puis de réflexion parce que l'idée c'était d'échanger autour de... on avait pris comme thématique les droits de l'enfant en fait. Pour lier culture et éducation et l'intérêt de ce genre de manifestation, c'est la rencontre pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est une soirée où il y avait des animateurs, des enseignants, des ATSEM, des élus, effectivement, et la rencontre de tous ces personnels éducatifs, c'est pas forcément courant, hein, puisque il est pas simple de regrouper tout le monde. Et l'idée, voilà, c'était vraiment de, à travers tous ces ateliers, de découvrir un peu et puis de réfléchir ensemble un peu à la place de la culture et de la culture dans l'éducation. En tout cas.
Les ateliers, est-ce que tu peux décrire quel atelier il y avait à cette...
Donc il y avait un atelier autour de la pratique de la radio, comme moyen d'expression, et comment on mène une radio pédagogique avec des enfants et des jeunes. Il y avait un photomaton sur les droits de l'enfant, l'idée étant des éléments étaient mis à disposition, de faire une photo qui représentait avec des déguisements un peu l'expression d'un droit de l'enfant. Il y avait également des lectures mises en espace, des mises en espace d'albums jeunesse, qui est quelque chose qui est proposé par le service culture chez nous. C'est-à-dire comment on met en espace avec des publics enfants des albums de littérature jeunesse. Et puis il y avait aussi un porteur de parole sur la question de savoir est-ce que la place de la culture dans l'éducation, s'il y a une réelle utilité ou est-ce que c'est une obligation. C'était un peu le fil conducteur de la soirée.
Donc ça, c'était en novembre dernier. Alors, ce qui vous amène aussi en partie ici, on va peut-être commencer à parler du BAFA et peut-être le définir ce terme. BAFA, d'ailleurs, les lettres.
Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur.
Bien joué. 1-0 pour le quiz.
Toujours. Ouais,
toujours prêt.
Et alors, pendant la pause musicale, je vous ai entendu parler de Pâques, puisque c'était le week-end dernier. Et alors, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit quiz sur Pâques. Mais pas n'importe quel petit quiz sur Pâques, c'est un peu tout ce qui va autour de Pâques, en tout cas ce qui concerne les œufs, le lapin, etc. Enfin, les lapins, etc. Est-ce que vous êtes prêts?
Ah bah, oui. Complètement.
Allez, c'est parti. Alors, première question et premier symbole aussi de Pâques, c'est la cloche. Quel est le son de cloche qui annonce un incident ou un danger? Comment s'appelle-t-il, ce son de cloche?
Aucune idée.
Alors,
je vais vous donner trois possibilités de réponse. Le glas, la volée ou le tosquin. Lequel des trois annonce un danger?
Allez, spontanément, j'irai le tosquin.
Eh bien oui, c'est le tosquin, voilà, le tosquin annonce un danger, le glas annonce les enterrements et la volée annonce les mariages. Voilà, donc c'est trois tonalités évidemment différentes. Mmh. Alors maintenant une question sur les lapins. Lapin de Pâques oblige, quel poids peut atteindre le lapin géant des Flandres? Ah ah, en sachant que c'est, si je vous demande ça, c'est que c'est un poids assez
oui.
impressionnant. En tout cas pour un lapin. Hein.
45 kilos?
Ah non, c'est moi. Ah. Non, c'est moi.
15 kilos?
C'est 10 kilos. Ah. 10 kilos, mais pour un lapin, moi j'ai pas la moyenne des poids des lapins, mais c'est, ouais, en tout cas c'est plus qu'un lapin en chocolat.
Oui, je pense.
Ou alors 10 kilos de chocolat, il faut les manger assez. Enfin, lentement. Hein.
Mm.
Au risque d'avoir la crise de foie. Troisième question. Comment s'appelle la rivière qui se jette dans l'Essonne? Est-ce l'œuf, le lapin ou la cloche? Ah, je vous avais dit que c'était des questions c'est... un peu pêle-mêle farfelues.
Moi, je sais. C'est la cloche.
Non, c'est l'œuf. C'est l'œuf, voilà, une chance sur trois.
Ouais, il fallait tenter.
Alors, on parlait tout à l'heure d'histoire. Pour le coup, c'est une question historique. Pour quel tsar a été fabriqué le premier œuf de Fabergé en 1885? J'étais vache hein, sur le quiz.
Ouais, très
vache. Mais je me suis dit, Pâques, allez, on va poser des questions un peu autour de cette thématique des œufs. En tout cas, l'œuf de Fabergé, hein, évidemment, c'est un bijou. Mm-hmm. Hein, on peut dire ça comme ça.
Un nom de tsar.
Un nom de tsar. Juste avant Nicolas Ier, si je ne me trompe pas dans son...
Yvan ?
Non, Alexandre III. Voilà, et en fait, pour la petite histoire, il a décidé de l'offrir à sa femme. Voilà, il a commandé cet œuf pour l'offrir à sa femme. Dernière question, à quelle période les cloches de Pâques restent-elles silencieuses? Parce qu'en fait, elles ne sonnent pas pendant toute la période de Pâques. Il y a un jour où elles ne sonnent pas, à partir d'un jour où elles ne sonnent pas.
Alors...
Ah, c'est compliqué, hein. Ah, je vous avoue, j'ai été compliqué. C'est peut-être le quiz le plus dur que j'ai
eu. Ça ne pas, non.
Après, promis, on reviendra sur le BAFA et un sujet un peu plus concret. En fait, c'est à partir du jeudi saint. Et en fait, c'est que de la nuit du samedi au dimanche de Pâques qu'elle carillonne pour annoncer la joie donc de la résurrection du Christ. Mais avant, à partir du jeudi saint, elle ne sonne pas. Voilà pour la petite anecdote sur les cloches de Pâques. Bon, j'en ai fini avec la torture. On va revenir à notre sujet initial. On va parler du BAFA, donc du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce BAFA, peut-être aussi de son histoire? On parle beaucoup d'histoire depuis le début de l'émission, mais d'où est né ce BAFA et en quoi il consiste aussi?
Le BAFA, en fait, il est né il y a quelques années maintenant. L'idée à la base, c'était de... Avant le BAFA, les séjours de vacances étaient encadrés par...
On les appelait enseignants.
Ça des enseignants, mm-hmm. ou on appelait ça des cadres aussi. Voilà. Donc, c'est des gens qui soit faisaient partie de l'enseignement, soit n'avaient pas forcément de diplôme de l'animation pour le faire. Et effectivement, et un jour, donc, le BAFA a été créé justement pour pouvoir avoir une reconnaissance. Pour pouvoir encadrer ces séjours de vacances et puis ce qu'on appelle les accueils de loisirs. loisirs aujourd'hui. Donc voilà, il a été un petit peu créé dans cette idée-là, et puis il a évolué avec le temps pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un moyen pour des jeunes d'une, de s'engager dans le milieu éducatif. Puisque c'est vrai que nous, en tant que Ligue de l'enseignement, on considère en tout cas que le BAFA est un moyen d'engagement des jeunes. On passe pas le BAFA pour devenir professionnel de l'animation ou pour devenir riche, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment pour donner une partie de son temps quand on est étudiant ou autre, pour servir cette cause éducative. Et donc voilà, aujourd'hui on est plus là-dessus. Puis ça permet aussi aux jeunes d'avoir une première approche aussi souvent de ce qu'est le monde du travail. Puisque quand on est animateur BAFA, on est salarié aussi. Hein, donc,
Est-ce que ça s'adresse qu'aux jeunes, du coup, le BAFA, ou pas spécialement ?
Pas spécialement. C'est sur les stages, on a effectivement une majorité de jeunes à partir de 17 ans, le BAFA, mais on a aussi des gens de tout âge, hein, qui sont soit en reconversion professionnelle, pardon, soit des gens qui ont besoin de passer un diplôme. On a eu le cas de, par exemple, des ATSEM qui ont dû passer le BAFA pour pérenniser leur emploi.
Alors, il y a une formation, évidemment, autour du BAFA. En quoi elle consiste, justement, cette formation ? Qu'est-ce que vous enseignez à ceux qui veulent passer le BAFA ?
Alors, cette formation BAFA, elle permet d'acquérir les premiers outils de l'animation. Comment déjà connaître les besoins particuliers des enfants, puisque c'est un diplôme qui permet de travailler auprès des enfants de 3 à 17 ans, 3 à 16 ans. Donc c'est déjà, c'est quoi un enfant de 3 ans ? C'est quoi un enfant de 6 ans ? Quelles sont leurs particularités ? Quels sont leurs besoins aussi spécifiques ? C'est aussi apprendre à gérer un groupe. Comment je fais face à des conflits entre des enfants ? Comment j'anime ? Comment je capte l'attention des enfants ? Et puis c'est comment je monte un projet d'animation qui va répondre à des objectifs pédagogiques, mais voilà, c'est comment je monte mon animation, comment je l'encadre. C'est ça le but principal du BAFA.
Oui, et puis si je peux rajouter, il y a une visée aussi, c'est bien prendre conscience du rôle de l'animateur. Il y a quand même un déficit de notoriété aujourd'hui des animateurs. On entend souvent « Ah, tu es animateur, tu as passé une bonne journée, tu t'es amusé ». Effectivement, c'est aussi comprendre que l'animateur a un rôle éducatif. Que quand les enfants viennent en séjour ou en accueil de loisirs, il y a un rôle, il y a quelque chose à leur apporter. Que ce soit l'ordre de valeur qu'on transmet ou même des apprentissages d'être ensemble, en fait. Et que l'objectif qu'on a, en tout cas nous, dans notre organisme, c'est aussi de leur faire prendre conscience de ce rôle éducatif. Et que ce rôle, il a une vraie valeur. Et que, effectivement, être animateur aujourd'hui, même si on le fait un été ou deux, ça a quand même une importance.
Et alors, qui est-ce qui dispense justement ces formations au sein de la Ligue d'enseignement ? C'est vous-même ou c'est des gens qui sont certifiés peut-être ?
Alors, c'est pas nous-mêmes, nous on est vraiment sur de la coordination, on l'a fait à une autre époque, mais aujourd'hui on est plus sur l'organisation générale. En fait, les formations, elles sont encadrées par des formateurs ponctuels, en fait, qui sont des personnes qui, par ailleurs, sont animateurs ou animatrices, directeurs, directrices dans des structures, et qui prennent un peu de temps sur leur congé, bien souvent, pour venir animer des stages. Et partager leur expérience, ce qui est important. Tout à l'heure, tu disais, qu'est-ce qu'on leur enseigne ? En fait, on n'est pas tellement dans l'enseignement, mais plus dans la transmission d'expériences et de points de vue et d'échanges. Et c'est ça qui est intéressant et qui rend cette formation aussi dynamique et vivante, c'est que les formateurs, ils ont des outils, hein, des choses, mais ils viennent transmettre aussi toute leur expérience et tout leur vécu d'animation.
Et leur pédagogie, finalement, s'il y a un mot à retenir de ça, c'est la pédagogie, non ?
Yes. Pédagogie active, c'est-à-dire que sur le BAFA, on n'apprend pas en étant assis sur une chaise et en écoutant les formateurs. On apprend en testant par soi-même les activités, en se testant en posture d'animation avec les collègues de la formation. On apprend en discutant, en partageant, en faisant des temps ludiques. C'est toutes les valeurs aussi des pédagogies actives mises en place par la Ligue. C'est effectivement l'apprentissage par l'expérimentation et par l'échange de groupe.
BAFA aujourd'hui, en termes de chiffres, en tout cas vous, au sein de la Ligue d'enseignement d'Indre-et-Loire, combien ça représente de personnes qui veulent se former justement à ces techniques-là d'animation ?
Alors, sur l'année dernière, on a eu 250 personnes qui se sont formées avec nous sur le département. Voilà. Sur le BAFA, puis quelques-unes sur le BAFD aussi, qui est le diplôme de directeur ou directrice de structure. Voilà, ça représente ce volume-là sur l'année 2017.
250, est-ce que c'est trop, pas assez? Est-ce que c'est un secteur qui est en plein essor, je dirais, même si on peut peut-être pas trop parler comme ça pour le BAFA, mais...
Ça sera jamais trop parce qu'en fait il y a un turnover assez important des animateurs, puisque effectivement le BAFA c'est pas un diplôme où on devient animateur professionnel, c'est un diplôme qui permet de travailler sur les vacances, sur les pauses méridiennes. Et du coup, les animateurs, pour la plupart, travaillent un an, deux ans, trois ans, et après s'en vont puisqu'ils ont trouvé un emploi pérenne ou quelque chose comme ça. Du coup, il y a un gros turnover en fait des animateurs, donc il y en a jamais de trop, surtout sur la ville de Tours, enfin l'agglo où il y a beaucoup de structures de loisirs.
Oui, ça reste très ponctuel en tout cas.
Oui, alors c'est ponctuel. Après, certains continuent leur parcours en se formant professionnellement. Après, ce qui est important et ce qu'on défend aussi, c'est que même si les... Alors, ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes, mais c'est quand même le plus gros des personnes qui passent le BAFA, ça reste des jeunes. Même s'ils font ça que deux étés ou trois, c'est toujours un plus, en fait. C'est-à-dire que ça peut permettre, dans l'entrée, dans certaines formations, comme à l'ITS, je pense, ça peut être un plus d'avoir son BAFA. Et puis, c'est aussi un peu un rituel passage à l'âge adulte, quoi. On prend une responsabilité, on va avoir un groupe d'enfants, et c'est aussi un moment agréable, quoi. On vit en groupe, on découvre, on expérimente pas mal de choses, on rencontre des personnes. C'est aussi ça le BAFA. Je pense que c'est un retour qu'on a de la plupart des stagiaires. C'est vraiment aussi, voilà, ça a été un vrai moment qu'on a vécu ensemble, et ça m'a permis de réfléchir les choses un peu différemment pour la suite sur certains aspects.
Pour celui qui a envie de faire le BAFA, justement, combien il doit mettre sur la table en termes financiers? Parce que ça a aussi un coût, il faut le préciser. Surtout pour ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont des aides pour financer la formation? Combien elle coûte?
Alors effectivement, c'est un coût. Après, voilà, en fonction des organismes, il y a des tarifs différents. Mais voilà, l'idée, c'est pas d'afficher les tarifs, mais de se dire qu'effectivement, on est dans un département où les aides sont minimes. Il est vrai que jusqu'à février 2017, la région donnait 100 euros à tous les jeunes de 17 à 25 ans, mais cette aide s'est arrêtée pour manque de financement. Aujourd'hui, donc, il y a une aide possible qui est valable pour tous, c'est la CAF, qui, à la fin du parcours BAFA complet, rembourse une partie du parcours. Sinon, voilà, on n'a pas effectivement d'autres aides au niveau départemental. Après, nous, on propose effectivement, en connaissant ça, des paiements en plusieurs fois. Voilà, c'est la bonne raison qui veut ça pour accompagner, parce qu'on sait que c'est pas facile de donner la première somme. Et puis généralement, on conseille aux jeunes aussi, puisque le BAFA c'est trois étapes, il y a une formation générale, un stage pratique là où ils vont dans une structure avec les enfants, et puis un stage d'approfondissement, c'est de se servir du stage pratique, de se faire rémunérer pour pouvoir rembourser une partie de son premier stage et puis payer son dernier stage aussi.
Est-ce que c'est pas un frein du coup à tous ces jeunes qui aimeraient peut-être s'engager mais qui pour raison financière ne le font pas?
Oui. C'est un frein. Enfin, je sais que moi j'ai rencontré pas mal de jeunes ces derniers temps dans des endroits différents, et effectivement il y a ce frein de devoir donner la première somme. Mais c'est vrai qu'après, en expliquant ce concept-là de miser aussi sur son stage pratique rémunéré, ça permet aussi de, voilà, d'envisager, et puis le paiement plusieurs fois aussi permet aussi d'amenuiser ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut être un frein pour plusieurs jeunes. Ouais.
Alors, tu parlais des trois étapes de formation pour le BAFA. Est-ce que tu peux revenir peut-être un peu plus en détail sur ces trois étapes?
Tout à l'heure, Mathilde parlait du stage de formation générale. Donc là, vraiment, on pose les bases, comme on disait, la sécurité des enfants, les besoins de l'enfant, le rôle de l'animateur. L'idée, c'est de leur donner les billes et les armes nécessaires pour aller sur le terrain après. Voilà, qu'ils soient au maximum prêts et rassurés pour leur stage pratique. Puisqu'après vient un stage pratique qui est réalisé donc de 14 jours. Dans une structure, donc ça peut être un séjour de vacances, ce qu'on appelle les colos, ou un accueil de loisirs, un centre de loisirs. Et donc là, ils sont sur le terrain avec une équipe, un tuteur, que ce soit le directeur ou la directrice qui les accompagne, et voilà, où ils mettent en place. L'idée, c'est qu'ils mettent en place ce qu'ils ont vu en stage de formation générale. Et suite à ça, après, donc, un stage d'approfondissement pour finir, où l'idée, c'est de faire un peu le bilan du stage pratique et puis d'approfondir une thématique. Voilà, donc en fonction des organismes, il y a des thématiques différentes. Nous, on a choisi nos thématiques en fonction de ce qui nous semblait intéressant à traiter et à apporter aux animateurs. Donc voilà.
Le BAFA, après, est valable à vie, en tout cas sur le CV.
Oui.
Oui. C'est pas quelque chose qui doit être reconduit.
Même pas que sur le CV, il est, une fois qu'il est obtenu, il est valable définitivement.
Alors justement, ces stages, on peut revenir sur les prochaines dates. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous mentionner ça, les prochaines dates à laquelle on pourra se former au BAFA?
Les prochaines dates, on est sur un fonctionnement. En fait, généralement, on propose des stages pendant les vacances scolaires. Donc les prochains stages, on propose un stage de formation générale qui aura lieu à Saint-Pierre-des-Corps, donc du 3 au 10 mai. Voilà, et puis donc dans le même temps un stage d'approfondissement sur la thématique des jeux et des grands jeux qui aura lieu lui à Jouer les Tours du 3 au 8 mai.
Donc ça c'est la troisième étape, hein, le stage d'approfondissement.
Ouais, c'est ça, voilà, okay. Troisième étape, donc là spécialisé sur le fait de préparer des jeux et des grands jeux.
Ok, donc ça c'est les prochaines échéances qui arrivent.
Voilà, et puis après on a aussi fin juin, puisqu'on sait qu'il y a des animateurs qui ont besoin de se former aussi avant les vacances, de nouveau un stage de formation générale et un approfondissement sur sport et handicap, voilà, où on fait intervenir nos collègues de l'USAP et du FOLAP qui sont les secteurs sportifs de la Ligue de l'Enseignement. C'est vrai qu'on les a pas cités au départ, mais on a aussi des secteurs sportifs avec leur expertise un petit peu sur comment amener des jeux et des séquences sportives avec des enfants situation de handicap.
En tout cas, pour toutes ces petites informations, il y a un site internet www.bafa-tour.org. Voilà, en tout cas, ceux qui seraient intéressés par passer le BAFA, ils peuvent se rendre sur ce site. Est-ce qu'il y a aussi une page Facebook Ligue d'Enseignement ou
Il y a une page Facebook Ligue de l'Enseignement aussi.
Il y a surtout une page BAFA Ligue 37 où là, il y a toutes les infos des stages BAFA, où nous, on poste aussi des offres d'emploi et toutes les infos sur les prochains stages BAFA.
Et puis, il est important aussi, notre numéro de téléphone, pas hésiter à appeler aussi. On a Marie qui travaille avec nous, qui s'occupe de tout ce qui est administratif et qui aussi peut répondre à toutes les questions des jeunes, notamment sur voilà, les moyens de paiement, sur la durée des stages. Voilà, c'est aussi important, même si on a des moyens numériques, de garder aussi un peu de contact pour tout ce qui est inscription.